Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je vais te dire une phrase un peu choc de mon père. Enfin, je sais qu'il le dit gentiment. Mon père, c'est quelqu'un qui est en mode être marié, c'est avoir un équilibre. Donc il va dire, si quelqu'un n'est pas marié, il va dire oui, il est déséquilibré, tu vois. Et donc lui, quand la dernière fois qu'il est venu me voir, lui, c'est, je crois que il sait très bien. Enfin, on en a déjà parlé. Il sait que c'est mort, quoi.
Que c'est mort pour avoir des enfants, c'est ça.
Pour avoir des enfants et même pour être dans une relation, je suis pas sûr, quoi. Et lui, il me disait, bah en fait. Attention, parce que moi je t'accepte comme ça, mais en fait là-bas c'est un peu bizarre. T'as un peu ne pas être marié, par exemple, c'est comme si t'es pas complet, quoi. Est-ce qu'on peut te faire confiance, tu vois?
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Deux mercredis par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Il faut que tu portes bien ton micro près de ta bouche.
Ok. Voilà,
pour quand tu vois, on t'entend bien.
Tu m'entends mieux.
Tu m'entends mieux ?
Ouais. Là, c'est un peu.
Tu m'entends mieux ?
Ça marche.
On est avec Osvaldo, donc salut Osvaldo.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va. Tout va bien.
Osvaldo, t'as 29 ans, c'est ça?
Oui.
Et tu m'as envoyé un message donc sur mon WhatsApp, parce que j'ai un nouveau numéro de WhatsApp Pro, là. Je vous le mettrai dans le... Vous pouvez m'envoyer des messages vocaux et tout.
Il fait aussi des notes vocales et tout.
Je fais des notes vocales. Comme ça, vous avez un petit vocal de ma part et tout, c'est sympa. Et tu m'as envoyé un message à 2h du mat. En me disant, tu m'as un peu raconté ton histoire, ce que tu vas me raconter dans 2 secondes. Et puis après, tu m'as envoyé un message écrit en me disant, putain, je sais pas pourquoi je viens de t'écrire ça. Mais je sentais que à 2h du mat, là, c'était important pour toi de m'écrire.
Oui.
Ou en tout cas, de me laisser un message vocal. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, à 2h du mat, pour que tu te dises, il est temps que j'écrive à Fab.
Et comme je t'ai dit, ça fait un moment que j'écoute, que je t'écoute. Et en fait, ce soir-là, t'avais posté un podcast où c'est une note vocale où tu parles aux gens. Et j'étais en mode genre, bah en fait, vas-y, je vais faire pareil, je vais envoyer une note vocale. En plus, t'avais donné ton numéro professionnel. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, je vais lui envoyer une note vocale. Et en plus, j'arrivais pas à dormir. Et donc, j'avais besoin à ce moment-là, bon, comme je t'ai dit, je suis un peu dans une phase... un peu changement, et donc j'avais besoin d'en parler avec toi, et de partager ça avec les gens qui écoutent le podcast. Donc voilà, j'ai dit, bon, je lui ai écrit, on va voir ce que ça donne.
Ok. Qu'est-ce qui fait que tu m'as envoyé cette note vocale? Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que tu peux pitcher en quelques minutes ce que tu vas me raconter?
Ouais. Bah alors, moi je suis donc j'ai grandi au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et je suis arrivé en France, ça fait 10 ans. Dans le podcast, j'ai dit 11, mais j'ai tendance à augmenter.
C'est ton histoire, personne ne ira vérifier.
Donc, ça fait 10 ans que je suis là, et là, je suis en train de faire un chemin inverse. Je suis en train de préparer un chemin de retour. Donc, je retourne m'installer chez moi. Et en fait, je pense que j'ai très peur, quoi. J'ai très peur de... Comme je t'ai dit, je me suis construit en France. Je suis arrivé ici, j'avais 18 ans ou 19 ans. Je me suis construit en France. Et là, c'est... Je crois que je flippe de rentrer et de me retrouver dans un contexte qui est pas du tout le même, où les gens n'ont pas le même rapport à tout ce qui concerne la masculinité, le rapport aux femmes, le rapport aux gens, tout simplement. Et comme ça me fait flipper, j'avais besoin d'un exutoire pour enfin aller parler avant de partir.
Ben merci de partager. Merci de partager ton exutoire avec les auditeurs. Tu me disais que t'écoutais The Boys Club depuis un moment, Histoire de mec aussi, c'est ça, depuis un moment. Mais alors, si tu veux, on peut commencer tout de suite et on va bien sûr parler de ton histoire. Mais en fait, c'est quoi pour toi être un mec?
Alors, c'est brutal.
Ouais, je sais.
Je ne l'avais pas préparé, celle-là.
Comment ça, tu
l'as? Oui, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé du tout, alors que je la connais. Pour moi, être un mec, je pense que c'est juste... c'est juste avoir une bite et des couilles, quoi. Mmh. Je pense qu'à part ça, y a rien de plus, quoi.
Ok.
Pour moi, c'est ça qui fait que je me considère comme un mec.
Ok. C'est tout.
Aussi simple que ça.
D'accord. J'imagine que ça a un peu évolué. Là, aujourd'hui, t'as 29 ans par rapport à, je sais pas, quand t'avais 15 ou 16 ans et que tu vivais au Bénin, non?
Ouais, bah, si tu veux. Moi, depuis que je suis petit, j'ai une tante que j'adore, qui m'a toujours appelée mademoiselle.
Ok.
Parce que du coup, en fait, je traîne toujours avec des meufs,
ouais,
beaucoup, et parce que je m'entends mieux avec les filles. Et du coup, je pense que mon rapport, enfin, avant, je me considérais pas vraiment comme un mec. Ma mère, elle m'a dit que quand j'étais petit, je mettais des robes et tout, parfois. Je me considérais vraiment pas comme un mec. Bon, maintenant, je mettrai pas de robe.
Ouais.
Mais en même temps, je me sens pas non plus dans le cliché du mec, tu vois.
Ouais.
L'image du mec baraque qui en impose et tout. Donc, je pense que ça n'a pas trop changé.
Pourtant, t'es grand, enfin, tu vois, Non, mais t'es grand, t'es costaud, enfin, même si t'es un
même
peu...
Même pas,
Non, mais t'es filiforme, mais t'es grand et t'en imposes, quoi, tu vois, t'as une stature, quoi.
Je sais pas. En fait, même aujourd'hui, on me confond beaucoup avec une meuf, hein. Donc, ça me dérange pas. Moi, la dernière fois, j'étais à la FNAC, je crois que c'est les cheveux aussi, mais qui était en mode... Et j'avais le masque aussi. Ah,
oui. Oui, le masque qui enlève ta barbe et ta moustache.
C'est ça.
Un indice.
Et le mec, il fait merci, madame. Je dis, très bien, très bien. Et même au téléphone, ça m'arrive plusieurs fois. Tu vois, donc en fait, je pense que les gens, ils me confondent facilement avec une femme. Moi, ça me dérange pas du tout.
Okay.
Donc je à part physiquement,
ouais,
je pense que je ne me sens pas trop être un mec.
Okay.
Même si je pense que parfois j'ai des petites tendances qui font que je me rappelle que ouais, j'ai quand même des petits.
C'est quoi cette tendance?
En gros, quand je te dis que parfois, par exemple, dans mon rapport, par exemple, aux femmes,
ouais,
tu vois, je vais avoir, tu sais, ce truc de par rapport à la sexualisation du corps des femmes, par exemple,
ouais,
bah là, je sais que c'est des réflexes de mec.
Ouais.
Quand j'ai ça, je suis en mode, ok, c'est un truc de mec et voilà. Et je pense que ça, bon, peut-être que.
Mais c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, tu peux pas me dire ça sans m'en dire beaucoup plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire, sans pour autant entrer dans ta vie privée et tout, tu ouais, vois. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que tu peux avoir tendance à désirer le corps des femmes, c'est ça, et de ce fait-là, à sexualiser aussi le corps des femmes.
Oui.
Ok.
Oui, beaucoup. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que. Oui, il y a ça, mais en même temps, comme je te dis, j'ai beaucoup de potes femmes.
Ouais.
Et il n'y a pas d'ambiguïté, quoi.
Oui.
Mais dans la vie de tous les jours, à part mes amis, je pense que j'ai tendance quand même à beaucoup sexualiser le corps des femmes. C'est-à-dire à mater, mais toujours dans la...
Bah, tu as le droit de mater sans...
Non, et sans mettre mal à l'aise les gens.
Oui, c'est ça. Tu as le droit de mater sans mettre mal à l'aise les gens. C'est...
Ouais.
Personne t'en voudra, quoi, tu vois. Tu peux regarder les filles dans la rue, tant que tu les regardes pas comme un gros creep.
Voilà.
Vous n'avez pas vu son regard, mais ça fait très peur.
Ok. Et ça, tu sens que, enfin, ça, je veux dire, le fait que tu sexualises les corps des femmes comme ça, tu sens qu'il y a un truc un peu de, bah, ok, en fait, finalement, j'ai aussi certains aspects ou certaines façons de faire plutôt masculines, quoi.
Oui. Et même, oui, il y a ça, oui, clairement. Et aussi, bon, là, récemment, comme je t'ai dit, je suis en train de monter mon agence. Mm. Donc, mon associé, c'est une femme.
Ouais.
Et parfois aussi, dans la conversation, je.
Qu'est-ce que tu vois ?
Dans la conversation, tu vois, j'ai tendance parfois à avoir des réactions où je me dis, bon, c'est un truc de mec, quoi. Genre en mode, il faut foncer dans le tas, il faut okay. faire ce truc nécessairement. Enfin, prendre un peu des risques, un peu inconsidérés.
Ouais.
Je pense que c'est un truc de mec, quoi.
Ok.
Et tu vois, moi, mon associé n'arrête pas de me dire, mec, tu vas te calmer sur ça.
Redescends.
Et d'ailleurs, c'est génial, tu vois, c'est un truc. Je pense que ça permet de, ça me permet de retrouver un équilibre sur ces sujets-là, sur ça. Mais ouais, je pense que c'est les deux points. Au niveau professionnel, je pense que j'ai un peu des réactions de mec.
Ok.
Et au niveau par rapport à dans ma vie sentimentale, je pense que je suis tout à fait le cliché du mec. Okay. C'est le mec qui parle pas trop, qui parle pas trop quand, dans sa relation. Par contre, je parle beaucoup avec mes amis. C'est très bizarre.
Ok.
Donc je pense que c'est des trucs un peu de mec, quoi.
Ok.
Je sais pas si je me trompe, mais bon.
Bon, y a pas à se tromper ou pas. C'est juste, c'est ta vie à toi, c'est toi qui raconte, quoi. Tu vois, y a pas de bonne réponse. C'est intéressant, ça, ce truc de t'ouvrir sans aucun problème à tes amis femmes et d'avoir beaucoup de mal à t'ouvrir avec les filles avec qui t'es en couple.
Ouais, ça c'est un vrai sujet. si tu veux, donc ma dernière relation, c'était un peu ça le souci, je pense.
Okay.
C'était ma plus longue relation, en général. Bon, c'était 2 ans.
Ok.
Et c'était vraiment un problème au bout d'un moment, quoi. Je pense que c'est un truc de j'ai peur de faire chier les gens.
Ok. Hein? Comment ça?
Quand j'ai un questionnement,
ouais.
Bah, je vais pas avoir tendance à en parler, bon, surtout, du coup, dans ma relation, je vais pas avoir tendance à en parler, tu vois. Je vais dire, bah, en fait, c'est dans ma tête, je vais essayer
de le gérer.
De gérer, d'intérioriser le truc, de laisser un peu couler. Et en fait, à un moment, ça sort. Mais ça sort pas. J'ai aussi l'impression que je m'exprime mal parfois. Ça sort pas. Le truc que je veux dire sort pas.
Ouais.
C'est un autre truc qui sort, qui n'a rien à voir, tu vois.
Rien à voir.
Qui n'a rien à voir, où je me rapproche même pas du sujet. Et même moi, après, je me dis, bah, en fait, c'est quoi le sujet? Tu okay. vois, donc je suis un peu.
Tu veux dire qu'en fait, à ce moment-là, tu sors peut-être de la colère sur un, parce que t'as peut-être, je sais pas, emmagasiné de la colère ou de la tristesse ou je sais pas quoi par rapport à un sujet qui te fâche avec la personne avec qui t'es, et que plutôt que de l'exprimer sur ce sujet-là, tu viens trouver un truc qui n'a strictement rien à voir, c'est ça ?
Qui n'a rien à voir. Genre, okay. le premier sujet qui me passe par ouais. la tête. Et je me suis rendu compte que. Par exemple, avec mon ex, ce qu'on faisait, c'est que parfois. J'écrivais, quoi. Parce okay. que du coup,
oui, c'est une bonne...
c'était pas possible, quoi. Donc j'écrivais et là, ça allait un peu mieux.
Mmh. C'est trop bien, ça.
Alors que j'écris comme un pied, mais bon.
Bon, j'en fous. Ça permet... Personne ne te demandait de Balzac à ce moment-là. T'as juste besoin d'exprimer tes émotions. C'est ça ?
Ouais.
C'est mais... plus simple pour toi de les poser par écrit ?
Je pense, ouais.
Ok.
Je pense que j'ai besoin de réfléchir à ce que je dis quand je parle. Et ça marchait un peu mieux à ce moment-là. Et après, voilà. Après cette relation, en fait, j'ai fait une grosse phase une grosse phase un peu étrange où j'étais en mode bon, ok, je suis libre maintenant. Je vais choper tout ce qui bouge.
Tu vas pécho, voilà.
Ça va durer 6 mois à peu près. Et après ça, en fait. Je me suis senti un peu comme une merde, tu vois.
Ouais.
En mode, bah, en fait, c'est comme si je consommais des gens.
Ouais.
Et depuis, bah, je suis un peu en mode, je ne peux plus, j'ai l'impression que je ne peux plus être en couple.
À ce point-là ?
Ouais. Genre là, j'ai même, enfin, J'ai peut-être aussi qu'il y a le fait que je pars et que du coup ça me retient.
Oui.
Je pense que ça joue énormément.
Bah oui, parce que tu le prévois depuis un an, c'est ça que...
Ouais.
Oui.
Je pense que ça doit jouer. Mais si tu veux,
c'est un peu normal, non? Tu vois, de te dire bah je vais pas me projeter dans une relation ou trouver quelqu'un avec qui.
Tu vois, il y a des, par exemple, il y a des gens avec qui je sentais
qu'il y avait moyen,
qu'il y avait un truc bien qui pouvait se passer. Mais de un, j'étais en mode ouais, c'est encore se reproduire, je vais pas réussir à bien communiquer, ça va être la merde et tout. Et deuxième truc, c'était en mode en fait, j'aime trop être seul. Et
okay.
Du coup, avant de penser au fait que je rentre, tu vois, c'est vraiment le dernier
ouais,
truc.
C'était le truc à la fin.
Et je crois que je pense que là, je suis un peu dans un mood où je suis en mode, bah, comme j'ai ce problème de communication, j'ai besoin d'être seul, de réfléchir à ça, de travailler sur moi-même avant de me réimposer à quelqu'un ou de partager quelque chose avec quelqu'un. Et donc, je suis dans un truc un peu... C'est comme si je m'interdisais un peu les relations, quoi.
Ok. Comment tu fais pour avoir ce problème de communication alors que j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup ?
Bah, je sais pas du tout.
Ok, tu sais pas ?
Je sais pas, je...
Tu vois un psy ou une psy ?
J'ai vu un psy.
Ok.
Il y a un moment, j'ai arrêté, ça doit faire... Je sais pas, un peu moins d'un an, j'ai arrêté.
Ok.
Au début...
Pourquoi t'as arrêté ?
Bah, en fait, j'avais trop de taf.
Ah, ok.
En fait, si tu veux, ça marchait. Pendant le confinement, j'ai rencontré un psy pendant le confinement.
Ok.
Et du coup,
rencontré un psy pendant le confinement. Ça fait vraiment.
C'était en mode genre, j'avais une pote et j'ai dit à la pote, genre, ok, il faut que je voie quelqu'un parce que ça va pas du tout.
C'était dur pour toi.
C'était compliqué. Ouais. J'étais tout seul dans mon petit appart. Et tu sais, comme je suis loin aussi, bah, j'avais pas ma famille à côté, donc c'était vraiment dur. Et donc, j'ai rencontré... donc, elle m'a donné le contact d'un psy. Du coup, on faisait les séances en visio.
OK.
C'était parfait. Je n'avais pas besoin de bouger. J'étais en télétravail. Parfait. Et en fait, quand il y a eu le déconfinement et tout, bah, il voulait qu'on se voit en vrai.
Ouais.
Sauf que c'était trop compliqué à caler dans les journées. C'était vraiment un vrai sujet. Désolé, j'ai le micro parfois.
Tu crois que c'était aussi une forme d'excuse que tu te donnais pour...
Peut-être, je sais pas.
Non, je sais pas, hein, je pose
la possible.
Question.
C'est possible. C'est possible. Parce que.
C'est une façon de prendre soin de soi, quoi, tu vois, de prendre du temps pour aller voir un thérapeute.
Non, mais c'est clair. Mais tu vois, moi, c'est aussi un truc de mec, c'est que j'ai pas tendance à prendre soin de moi. Mm. C'est vrai que je me laisse un peu en mode genre, j'ai mal à la tête, je suis en mode.
On est des bonhommes.
On va boire de l'eau, ça va passer.
On va boire de l'eau. Ceci dit, le mal de tête parfois passe juste en buvant de l'eau. Si c'est persistant, faut aller voir quoi.
Tu vois, j'aurais pas tendance à. C'est vrai que je me laisse un peu. Je prends pas trop soin de moi. Et le truc du psy, par contre, je sais pas si c'est trop ça parce que finalement, j'aimais bien les séances.
Ouais.
Parce que ça me permettait de parler et de dire des choses et de réfléchir à certaines choses auxquelles je n'avais pas pensé. Genre, ça m'a fait comprendre, par exemple, que... Enfin, je le dis comme ça, mais tu vois, c'est mon rapport à ma famille. Et c'est un truc où je ne m'étais jamais questionné dessus. Et là, ça m'avait vraiment aidé à avancer sur ça. Donc, je ne sais pas si je me faisais une excuse pour ne pas y aller.
Okay.
Parce que finalement, j'aimais bien. Mais je pense que... Je pense que c'est autre chose, en fait. Je pense que ce qui se passait, c'est que dans mon travail, je voulais toujours être très performant. Et donc, je me donnais aucun moyen de... Pour moi, aller chez le psy quand j'étais au retour
au boulot,
ça voulait dire partir plus tôt. Et ça, je m'autorisais pas. Je pense que jusqu'à là, je m'autorise pas, quoi. Enfin, là, j'ai arrêté de travailler, ça doit faire 2 semaines. Je peux te dire que je m'autorise pas à prendre à m'arrêter pour dire bah j'ai un rendez-vous médical. C'est un truc.
Surtout que là, je vois, tu vois, qu'il y a vraiment un sujet sur lequel tu pourrais aller creuser justement, tu vois, avec un psy ou une psy, venir te dire bah j'ai ce sujet-là de communication. Ça, t'as l'air de bien communiquer avec tes amis.
Bah oui.
Oui. Donc c'est vraiment quand c'est amoureux, quoi.
C'est ça, mais après il y a aussi un truc, je pense que pense que quand même, même si je parle beaucoup avec mes potes, il y a quand même des trucs où je suis un peu plus en mode... Il y a des sujets où je réfléchis beaucoup avant de dire quoi. Par exemple, là, pour la création de ma boîte, c'est quelque chose que j'ai pas trop échangé sur ça.
Ok.
Alors que pourtant, on parle de plein de trucs. Alors que c'est un truc qui me faisait très très peur. Tu vois. Et ça, j'ai un peu gardé.
Pourquoi?
Je sais pas. Je okay. pense que... je sais pas. J'ai un peu gardé. J'étais un peu en mode, non, je vais pas trop en parler et tout. Et ouais.
Les sujets qui te font peur, c'est dur d'aller les...
Ouais, je pense qu'il y a peut-être de ça. Je pense dès que moi j'ai un peu j'ai une inquiétude sur un truc, en fait quand c'est pas joyeux, je suis en mode non, je vais pas en parler. Je vais casser l'ambiance.
Le mec c'est juste, putain, moi je viens juste pour faire la fête, hein, d'accord. La vie est une fête, si la vie est pas une fête, ça m'intéresse pas.
Mais c'est vrai que les gens ils me disent toujours genre, est-ce que tu peux t'énerver, est-ce que tu peux être triste et tout, et en fait je pense que c'est parce qu'en fait quand c'est pas joyeux et quand c'est un peu badant, bah je le garde quoi.
Ok.
Et c'est un peu con de faire ça, je pense.
C'est pas con déjà parce que c'est juste que tu te fais du mal. C'est pas con, y a pas à mettre, je crois, un adjectif négatif ou c'est juste tu te fais du mal et c'est dommage, c'est tout, tu vois, juste, c'est pas con, c'est juste bah tu te fais du mal.
Mais là récemment j'ai donc un de mes seuls potes mecs.
Ouais. Ah, t'as pas beaucoup de potes mecs.
Ouais, pas yes. beaucoup. Et un de mes seuls potes mecs, que enfin c'est en gros c'est marrant, c'est l'ex d'une de mes potes avec qui je m'entendais super bien. On s'est rencontrés en direct, on s'est kiffé, on s'entend super bien. Et lui, il habite pas à Paris. Il passe de temps en temps et je pense que c'est la seule personne avec qui je peux parler de tout, quoi.
Ok.
Et on se le dit souvent, tu vois, genre, mec, franchement, tous les deux, on peut tous dire et tout. Et je pense que ça doit être la seule personne, ouais.
Ok. Tu lui as parlé, là, de tes flips de rentrée, de...
Ouais. Je lui ai parlé de ça, enfin, je lui ai parlé un peu de tout. Après, le truc, c'est que les flips et tout, il y a des sujets où je sens que c'est difficile à comprendre parfois pour certaines personnes, même pour lui, tu vois.
Ouais.
Parce que mes flips, c'est en gros là, mes flips, c'est je vais rentrer chez mes parents.
Ah, tu vas rentrer vivre chez tes parents en plus.
Ouais.
Mais pourquoi?
Au début. Bah au début.
Ah oui, pour le temps de trouver.
Je peux pas faire de visite là d'ici.
Oui. Tantôt. Ouais.
Donc là, je vais rester 2-3 mois chez mes parents. Et je suis en mode, en fait, j'ai trop peur que ça se passe mal, quoi, que mon nouveau mode de vie, ma nouvelle manière de fonctionner, ne plaise pas, que ça clash, que je trouve pas d'amis avec qui parler de ça.
Donc ça va au-delà de tes parents.
Oui, ça va au-delà aussi de mes parents, c'est clair. Mais tu vois, et ça, ces choses-là, je peux pas. C'est difficile de dire ça. Mon pote, par exemple, c'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre. En mode genre, bon, bah, en fait, c'est tes parents, quoi. Ça va aller. Mais souvent, on me dit ça. Mais c'est vrai que ça devrait aller, quoi, sur mes parents.
Mais qu'est-ce qui te fait peur, au fond?
Pas que ça se passe mal, quoi. Je pense.
Mais qu'est-ce qui peut mal se passer?
Par exemple, je sais pas. Non, mais je pense que, surtout...
Tu veux dire qu'ils acceptent pas l'Osvaldo de 29 ans par rapport à celui qui les a quittés à 18, c'est ça?
Ouais, que je suis un peu... en fait, j'ai peur d'être un étranger encore, quoi.
Ok.
Je pense que ça, c'est un truc qui me fait très peur. Parce que je pense que ça se profile un peu, déjà. En fait, si tu veux, ici, je me sentais pas chez moi, je me sentais étranger.
Ouais.
Et donc pas légitime, ce qui fait que je bougeais. Mais en même temps, là-bas, je me dis, bah, quand je vais revenir, ils vont me considérer comme étranger de nouveau. Et ça me fait peur. Moi, j'ai envie de... En fait, je pense que j'ai très envie de me sentir chez moi, quoi. Là, en ce moment, c'est... Ouais, à la maison. Il y a un podcast très cool qui s'appelle À la maison.
Je connais pas.
Mais ouais, j'ai très envie de me sentir à la maison.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ok. Tu m'as raconté que ça avait été dur. Tu m'as dit, c'est un traumatisme, la carte de séjour. Je sais pas ce qui s'est passé exactement.
Ouais, c'est, tu sais, comme, donc, moi, comme je suis étranger, j'ai fait mes études ici. Mmh. Et donc, toutes les années, tu dois faire un renouvellement de carte de séjour. Et en fait, c'est de la paperasse. Et c'est des heures d'attente à la préfecture.
Ouais.
Et en fait, c'est une espèce de, moi, quand je suis arrivé, j'avais tous mes potes étaient, bon, ok, beaucoup de mes potes étaient français et un peu partout dans le monde et je me sentais vraiment bien, quoi.
Oui.
Et en fait, c'est une espèce de piqûre de rappel. En fait, t'as une date de péremption, c'est-à-dire que t'as un an là. Si le prochain dossier passe pas, tu, ciao, quoi. Et donc, c'était vraiment un traumatisme. Et le moment où je l'ai vraiment senti, c'est quand je suis arrivé à Paris. Donc, moi, j'ai fait mes études à Strasbourg.
Okay.
Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, c'était le moment un peu charnière où je devais changer. En fait, quand t'es étudiant, t'as des cartes un peu spéciales et il faut que tu fasses un changement pour une carte de travailleur.
De travail.
Et ça, c'était compliqué parce que moi, je suis arrivé, j'ai pris mon appart et en fait, je l'ai pas aménagé. Mon appart, il était vide.
Ah.
Et j'étais en mode, je suis resté comme ça pendant 2 ans.
Oh.
Et j'étais en mode, ouais, en fait, je peux partir.
À tout moment, c'est. Okay.
Et j'avais vraiment ce truc, même si je le disais pas, je le. Et c'était vraiment un truc qui était là tout le temps, quoi. Genre, ouais, en fait, tu peux partir à tout moment. Et c'est le confinement qui a fait que j'ai aménagé mon appart.
Oui, parce que t'avais du temps chez toi. Ouais. Et que tu, cette là, tu t'es dit, ouais, ok.
En fait, je vais pas rester là, y a rien. Et j'ai aménagé mon appart à ce moment-là. Et ouais, ça, c'était vraiment un truc qui m'avait vraiment marqué de devoir, en quelque sorte, prouver que j'avais le droit d'être là. Alors que finalement, j'avais quand même... Je me sentais... Enfin, je me sens français, en fait, un peu. Même si... tu vois, il y a un truc un peu étrange où même si je me sens... français, je me sens pas chez moi.
Ouais,
je me sens béninois aussi, mais ouais. Tu vois, il y a un peu un truc de... Et en vrai, c'est un truc de trouver sa place, quoi.
Ses racines.
Ouais. Même si je suis certain... Enfin, je sais que mes racines sont là-bas et que... Et que j'aurai plus de légitimité là-bas. Enfin, je me sentirais plus à l'aise... Okay. En tout cas, je sais pas si j'aurais plus de légitimité, mais je me sentirais plus à l'aise. Là, tu vois, depuis que j'ai décidé de partir, si tu veux, il y a un gros moment pendant 3 mois, à peu près là, où j'ai fait un peu les deux en même temps.
Mmh.
Je travaillais ici pour mon patron et je rentrais chez moi et je travaillais sur mes projets. Et je sentais vraiment que je changeais. Mon cerveau, il changeait.
Oui.
C'était vraiment ici, j'étais un peu craintif de tout ce que je faisais. Même si, apparemment, on me disait que je le faisais bien, mais j'étais en mode, ah, putain, merde, peut-être que je me loupe et tout. J'étais pas très à l'aise.
Ah ouais?
Dans mon métier.
Alors que.
Bah, alors que, apparemment, ça allait.
Oui, c'est. T'étais diplômé, enfin, tu bosses depuis. Tu bosses depuis combien de temps, lors de ce fait-là, en archi?
Ça fait 4 ans.
Ok.
Je travaille.
Oui, donc t'as de l'expérience.
Ouais, mais je sais pas, j'avais vraiment un truc, tu vois, quand on faisait des réunions. Je n'osais pas prendre la parole. Ça, c'est un truc. Même si j'étais en mode, genre, ouais, mais en fait, ce que j'ai à dire n'a aucune importance. Genre, moi, je j'étais pas à l'aise du tout. Et quand je rentrais chez moi et que je faisais mes propres trucs, bah, j'étais très, très à l'aise, quoi. Je sentais que, voilà, c'était ma place, un peu.
Alors, ça devient d'où, cette histoire de manque de légitimité?
Ça a commencé quand j'étais plus en études, en fait.
Okay.
Dès que je suis rentré dans le monde du travail, j'ai eu ça. En fait, j'ai fait deux agences d'archi, moi. Une agence où on était 3. J'étais le premier employé c'était un couple et ouais. Moi, j'étais le gamin qui venait d'arriver. Et même là, on était trois, ça va, quoi. Mais j'étais pas à l'aise, tu vois. J'avais ce truc de, ah, c'est mes boss. Donc, en fait, je peux pas être complètement moi. Donc, j'étais très sage et tout, alors qu'en fait, je fais beaucoup la fête quand même. J'étais vraiment dans un truc, je pense que mes anciens boss, ils me connaissaient pas du tout. Ils étaient en mode, en fait.
Mais t'avais peur de te montrer tel que t'étais ou, et tu te disais que peut-être ça allait te, je sais pas, te jouer des tours ou?
Je sais pas, parce que finalement, l'agence où j'étais après, non. Je montrais quand même que j'étais quelqu'un de je me montrais pas complètement, ouais. Mais je montrais quand même que, bon, je suis pas un gars qui reste dans son coin. Ouais. Je sais pas expliquer ça.
Ok.
Je sais pas, en tout cas, j'ai vraiment notifié que j'avais un problème de légitimité quand j'ai changé. J'étais étudiant, j'avais mes potes, on faisait des trucs tout le temps, on avait un peu nos délires. Et dès que j'ai commencé à bosser pour des gens, j'étais en mode, ah merde, en fait, faut que je fasse attention à ce que je fais, à ce que je dis, à tout ça. J'étais pas du tout à l'aise. Et
tu sens que maintenant, là, que tu vas avoir ta propre agence, donc t'es en train de, je sais pas si on l'a dit, mais tu crées ta propre agence au Bénin.
Ouais.
Ça va être plus simple pour toi parce qu'il y a ce côté ok bah désormais je suis le boss ou alors c'est parce que aussi tu rentres au pays, est-ce que ça tout ça se
ouais.
se combine
ouais je pense que ça va enfin je pense qu'il y a une combinaison comme tu dis
ouais.
Mais je pense que aussi il y a ce truc de la vraie raison c'est je suis en mode Il y a plein de trucs, quand tu vois l'écologie et tout ce qui se passe un peu dans le monde, il y a des vraies problématiques dans le bâtiment, par exemple. Et je trouve que je ne suis pas la bonne personne pour réfléchir aux problématiques d'ici. Parce que si j'ai pas grandi dans ce contexte-là, ouais. je ne sais pas... c'est des trucs où je peux... parler, discuter parce que c'est mon métier, mais je me sens pas légitime de proposer des solutions.
Okay.
Alors que là-bas, bon, il y a aussi le fait que, je sais qu'il y a un vrai besoin de gens qui font mon métier déjà. Donc je pense qu'il y a un peu d'opportunisme de, ok, en fait, je sais que là-bas, ça va être mieux au niveau professionnel. Mmh. Et après, il y a aussi ce truc de se dire, j'ai grandi là et je peux apporter des réponses de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris ici aussi. Tu vois, c'est vraiment...
Okay.
Je pense que c'est un peu ça le truc.
D'accord.
Parce
que... Non, mais je sais pas. Est-ce que vous entendez Cosvaldo tapote du pied depuis tout à l'heure, nerveusement?
Je réfléchis, ok.
C'est juste que je crois que les gens vont l'entendre, tu vois, qui tapote du pied.
Mais clairement, je pense que il y a un gros mélange de toutes ces inquiétudes. Les inquiétudes, même si je sens que ça va être plus serein là-bas, mais en même temps, bon, on ne sait jamais. Mais il y a les inquiétudes professionnelles, mais il y a aussi le côté est-ce que je vais être compris? Est-ce que je vais trouver ma place?
Tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, tu me disais, moi, je suis très woke.
Voilà.
Moi, je suis très woke, t'as dit. Et j'ai peur que le fait d'être très woke, alors pour les gens qui ne savent pas, mais woke, en gros, c'est que tu fais...
C'est les ennemis de la République, les woke.
Ouais, c'est ça. Mais alors après, si tu commences à rentrer là-dedans, les gens vont se perdre si ils ne savent pas. Mais en gros, c'est un terme américain à la base qui est très positif, qui signifie d'être éclairé, de faire attention à tes privilèges, de faire attention à globalement comment les gens vivent entre eux, des différentes oppressions qu'il peut y avoir dans le monde, dans le système, etc., dans la société. Et bien sûr, tu dis que c'est les ennemis de la République parce que les pas mal de gens de droite et les courants de droite ont récupéré ce terme pour en faire un peu une insulte, en fait. Alors qu'en fait, à la base, c'est pas du tout une insulte.
Pas du tout, quoi.
Et donc, de ce fait-là, ce qui s'est passé, c'est que en contrepartie de cette récupération de la droite, il y a les gens qui se disent woke, qui disent que maintenant ils en font une blague, donc ça devient impossible à comprendre pour les gens qui sont pas éclairés et qui savent pas du tout de quoi ça parle. Donc bref.
Faut brouiller les pistes.
Ah ben c'est ça, faut. Mais c'est intéressant aussi de voir à chaque fois comment les différentes parties en fait se positionnent, tu vois, en fonction de l'un qui récupère le truc de l'autre pour en faire une insulte. Toi après t'es obligé d'en faire une blague pour faire en sorte de bon bref.
C'était bien un jeu de ping-pong impossible quoi.
Voilà. Alors qu'à la base tout ça est tout simplement. Toi, tu le dis, j'imagine, pour juste te dire, moi, j'ai essayé de grandir en ayant conscience de qui je suis dans le monde, du fait de ton identité, de comment tu te positionnes aussi, toi, j'imagine, en tant que mec qui vient du Bénin, noir aussi, architecte, donc qui, j'imagine, est amené à avoir une position sociale plutôt élevée, quoi. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quelque chose, j'imagine, que tu as appris au sein de tes études en France, c'est ça? Ou en tout cas qui t'a...
Oui, je pense que... Enfin, pas tant dans les études. Alors, je saurais pas... Enfin, pas tant dans les études parce que...
En tout cas, dans ton parcours.
Oui, c'est ça. À l'école... Enfin, à l'école de l'archi, c'est pas... Ouais.
C'est pas le wokistan, quoi.
Ouais, c'est plutôt dans mon parcours, je pense. Ouais. Les gens, j'ai rencontré des gens...
Des amis.
Voilà, qui m'ont un peu fait me poser des questions. Et je pense que aussi, tu as ce truc de... Bon, en fait, comme tu dis, je suis une personne noire. Et du coup, je pense que tu as plus de facilité à te poser des questions quand t'es pas... bon, dans mon cas, où je suis pas à la maison.
Oui.
Tu as plus de facilité à te dire... Ah bah ok, en fait, je suis pas là. Je suis pas chez moi. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que je suis? Comment je suis? Comment je me positionne?
Notamment, tu parlais de cette histoire de carte de séjour, de piqûre de rappel tous les ans, qui te fait dire, ok, où est-ce que je suis, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et oui, est-ce que j'ai des privilèges? Qu'est-ce que c'est, ces privilèges et tout ça? Et une fois que tu te poses toutes ces questions, tu te rends compte que en fait, tout le monde, c'est compliqué, quoi, en fait.
Résumé.
C'est très compliqué. Il y a des gens qui font partie de minorité, mais qui en même temps ont des privilèges. De la même manière, t'as des gens qui sont complètement
des blancs qui sont pauvres.
Voilà, exactement.
T'as tout, quoi.
Et que le faut pas tomber non plus dans des espèces de séparation noir-blanc, quoi. C'est vraiment très compliqué, ce genre de sujet. Et il faut que chacun, c'est pas de l'individualisme. Je pense que c'est bien que chacun se pose et y réfléchisse.
Et ça, typiquement. Ces questions-là, et j'imagine ce parcours qui t'a fait toi aussi progresser en tant que Cosvaldo, que jeune mec de 29 ans que tu es, t'as peur, parce qu'on revient à ces peurs, qu'une fois au Bénin, tu te retrouves peut-être en décalage, c'est ça?
Ouais, okay. Clairement. Je pense que ouais, c'est... Souvent, quand j'ai... Par exemple, j'ai un frangin avec lequel je parle le plus. Donc moi, j'ai un rapport assez bizarre à ma famille. Je suis pas très famille. Je suis un peu éloigné de ma famille, sauf mon père avec qui je parle beaucoup,
okay.
Et un de mes frères. Et quand on commence à aborder ces sujets-là, je sens tout de suite que le mec, il me dit, mec.
Alors attends, c'est ton frère, c'est ça?
Oui.
Ils ont, en fait, c'est quoi ta famille? À quoi elle ressemble?
Donc,
frère, sœur?
Moi, je suis le Benjamin.
Ok.
J'ai trois grands frères.
Ok.
J'ai pas tous les âges en tête.
C'est pas grave.
À peu près 5 ans de décalage entre eux à chaque fois. Okay, 5 ans avec moi. Et donc, j'ai pas de sœur. Mon grand regret. J'aurais aimé avoir une grande sœur. Et donc, toute ma famille habite au Bénin. Et donc, le seul contact qu'on a quand je rentre pas, c'est WhatsApp pour discuter de temps en temps.
Était le seul à être parti du Bénin pour faire tes études?
Pour faire mes études. Okay. Donc tout le monde est un peu parti à un moment de sa vie, mais pas aussi longtemps.
Ok.
Donc ouais, là je suis le seul à être parti longtemps et je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je rentre. Quoi. Là j'avoue que je me suis un peu battu pour faire accepter aux gens que je rentre, par exemple. Tu vois, moi quand j'ai annoncé à mon père que je rentrais... Il était en mode, bah, fais pas ça, quoi.
Ah ouais?
En mode...
mais pourquoi?
En mode, en fait, bah, je pense qu'il y a aussi ce truc de... t'es en France, ça se passe bien, t'as un métier, tu vas tout foirer pour venir ici alors qu'il y a pas grand chose qui se passe ici. Je pense qu'il y a cette image de, c'est l'Afrique, quoi.
Ouais.
Tu vas pas revenir en Afrique, quand même, faut pas faire ça. Et tu vois, rien que sur ça, je me sens déjà en décalage, tu vois, genre, tu vois, là, je me force un peu pour arriver, et là, je me dis, bah, je vais devoir prouver que je me suis pas planté, quoi. Parce que tout le monde m'a dit, mec, tu te plantes. Et je...
Plante de revenir?
Ouais.
Ok.
Tu vois, et donc t'as ça, et t'as aussi ce truc en plus de, bah, il suffit pas de montrer que c'est possible de faire des choses là-bas, mais il faut aussi pouvoir se sentir à l'aise, pouvoir discuter avec les gens. Et dans ma famille, en tout cas, je vois déjà que c'est un truc impossible, quoi. Je pourrais pas trop leur dire d'aller, je sais pas, se poser des questions sur leur classe sociale, en mode genre, vous vous rendez pas compte que vous êtes privilégié et tout. Enfin, tu vois,
Tu viens d'une famille aisée, c'est ça? Plutôt aisée?
Ça va.
Ok.
Donc ça, c'est un truc, tu vois, moi, c'est un truc que je me rendais pas compte jusqu'à ce que je parte.
Ouais.
Et je me dis, bah, en fait, si, ça va, quoi. Et je pense que dans ma famille, on ne se rend pas compte,
ouais,
forcément, de ça. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, ça permet de pouvoir aussi dire, bah, de pouvoir un peu clarifier les choses qu'on fait, quoi. Moi, ça m'a beaucoup aidé à... Bah, ça a joué dans mon choix de retourner, quoi. Je suis en mode, bon, ok, en fait... Je vais profiter un peu de ces privilèges quand même, parce que du coup, ça m'ouvre des portes sur place que je ne peux pas ouvrir ici. En fait, ici, j'ai l'impression que j'ai un plafond de verre au-dessus et okay, que je peux pas.
Et tu le sens vraiment?
Bah, je le sens. Peut-être que je me trompe. Hein.
Ah,
mais
non.
Mais moi, je le sens.
Encore une fois, c'est ta réponse à toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je me trompe.
C'est l'image que je
me pose. Une question qui te concerne. Pas de. Le mec est là. Je ne suis pas sûr d'être très légitime pour parler de moi-même.
Attention.
Non, mais là, pour le coup, t'es totalement légitime pour parler de ton expérience, mon vieux.
Non, mais c'est clair que oui. Je pense que j'ai un petit. Ouais. Je pense pas que je puisse évoluer autant que je veux.
Ok.
Ici.
Il vient d'où ce plafond de verre pour toi?
Alors, je pense que deux possibilités. Soit le fait que je me sens pas légitime fait que je me mets un peu des bâtons dans les roues et du coup que je peux pas grimper. Soit les gens ne me voient pas comme quelqu'un qui puisse évoluer.
Ok.
Donc, je sais pas laquelle des deux et qu'est-ce qui se passe vraiment.
C'est un peu l'œuf ou la poule, quoi, tu vois. C'est-à-dire que à quel moment le fait de pas te sentir légitime, toi, tu décides d'être un petit peu en dessous et que peut-être les gens de cette là ne te voient pas et donc c'est le serpent qui se mord la queue.
Exactement. Je pense que ça doit être un peu un mélange des deux, du coup quelque chose qui fait que ça fait un peu tourner en rond. Moi, j'ai l'agence où j'étais, tu vois, j'étais tellement je me sentais pas légitime que à chaque fois que j'avais des entretiens annuels, j'étais en mode, oui, mais moi, je vais pas être chef de projet, hein. Ouais. Je disais ça, quoi. En mode, genre, attention, je suis pas là pour, donc je pense que ça a joué.
Et tu crois que cette histoire de carte de séjour, on y revient, hein, mais, de te sentir, je sais pas si c'est pas le bienvenu, enfin, je sais pas comment ça se goupille dans ta tête, tu vois, mais il y a vraiment un truc de, ok, tous les ans, t'as un peu ce truc de, un coup près pour toi. Est-ce que de la même façon, tu vois, que t'as pas aménagé ton appart pendant 2 ans? Alors après, il y a un vrai truc aussi de prendre soin de soi, hein, derrière tout ça, mais j'imagine que les deux viennent cohabiter à un moment donné, parce qu'il y a pas mal de mecs qui sont incapables aussi de prendre soin, qui ont pas de carte de séjour ou je sais pas quoi, qui sont incapables de prendre soin de leur intérieur, mais ça c'est autre chose. À quel point cette histoire de carte de séjour qui t'empêche, tu vois, de te projeter aussi, toi, ou en tout cas de te dire, oh, putain, tous les ans, il y a un coup près, ça t'a aussi, t'as l'impression, empêché de te projeter dans une carrière en France?
Bah, je pense que je me suis senti quand même bienvenu par les Français,
oui,
en général, Mais c'est juste ce truc institutionnel qui me bloquait. Et après, tu vois, je pense que j'aurais pu à un moment dire ok, je me lance dans la procédure pour demander la nationalité, tout ça. Et ça m'aurait simplifié la vie en fait. Mais je l'ai pas fait parce que je sais pas pourquoi. Je l'ai pas fait alors que en fait, ça me met tellement la pression d'aller chercher la carte de séjour à chaque fois. Mais en même temps, le seul truc que j'aurais pu faire pour passer ça et me sentir et enlever ce poids de ma tête, je l'ai pas fait. Mais le jour où j'ai décidé, je sais que c'est important parce que le jour où j'ai décidé que je partais, j'ai senti un gros en mode bah ok c'est bon, j'ai pas besoin de reprouver parce qu'en fait il y avait aussi ce truc de c'est des papiers, c'est de la paperasse, mais en fait à un moment, il faut que tu ailles demander des papiers à tes boss, quoi. Et du coup, ça te fait sentir un peu comme si tu leur dois un truc en plus.
Ouais, je comprends.
Et donc ça, c'est le truc qui me... Ça me saoulait, quoi. De vraiment être en mode... Bah, je me sentais pas pareil que les autres. Ouais. Tu vois, moi, j'avais mes potes qui étaient en mode genre, ouais, bah, je vais trouver un boulot. Typiquement, quand je suis arrivé à Paris, en fait, quand tu demandes ton changement de statut, ils te disent il faut que tu sois dans un travail, peu importe, et que tu restes 2 ans dans ce travail. Sauf qu'en fait, moi, j'avais envie de changer de boulot à un moment. Et mes potes, ils pouvaient changer de boulot. Et moi, j'étais pas censé pouvoir changer de boulot. Et ça, je trouvais ça juste insupportable. Alors que moi, je voulais bouger. Du coup, je l'ai quand même fait. Et j'ai dû tout recommencer, ça m'a saoulé, mais je l'ai quand même fait. Mais tu vois, c'est comme si j'avais une punition derrière d'avoir fait ce que tout le monde faisait, quoi. Donc je pense que effectivement, ce traumatisme-là, ça joue sur plein de choses, sur mon rapport au travail, à la légitimité, à plein de choses.
T'as l'impression que si la France t'avait un peu mieux accueilli, ou en tout cas t'avais foutu moins de bâtons dans les roues, pour administratif notamment, t'aurais pu envisager de faire une carrière ici ?
Ouais, je pense. Ah ouais. Donc je pense que oui.
Donc il y a aussi une forme de... alors c'est pas un gros mot pour moi, mais tu vois, de fuir un peu cette situation instable en fait pour toi en France, quoi, c'est ça ?
Je pense que oui, c'est un peu tu vois, ce que je trouve un peu stupide, c'est que ça fait... Je comprends que quand t'arrives, on veuille te vérifier des choses. C'est normal. C'est comme ça dans tous les pays. Mais en fait, je comprends pas que tu fasses 6 ans d'études qui se passent bien. Et qu'après, on te demande des comptes juste dingues, quoi. Des trucs à prouver, continuer à reprouver tout le temps que tu as le droit d'être là. Je trouve que c'est ça qui m'a un peu...
Ok.
Mais clairement, je pense que si j'avais pas tout ça, ça aurait changé la donne.
Et d'un autre côté, je te sens hyper content aussi d'aller tenter ton aventure entrepreneuriale au Bénin, quoi.
Ouais.
Ok.
C'est sûr que ça, je l'ai vraiment cherché. Genre, je voulais vraiment y aller,
ouais.
Même si je savais que c'était compliqué. C'est pas du tout ce que j'ai appris. Faut que je réapprenne mon métier parce que c'est pas du tout le même métier là-bas. C'est autre chose.
Et à ce point-là.
Ouais, c'est. Enfin, il y a des choses qui se ressemblent. Enfin, c'est une maîtrise d'œuvre. Il y a des choses qui se ressemblent, mais en fait, ça fonctionne pas du tout pareil, quoi. Rien que le rapport, le rapport que les gens ont à l'architecture.
Oui.
Ici, je pense que les gens, ils sont. C'est compliqué aussi, hein. Mais je pense qu'il y a déjà un peu plus de gens qui savent que l'architecture c'est important. Être dans l'espace, c'est quelque chose qui se réfléchit.
Ouais.
C'est pas un truc qu'on fait comme ça à l'arrache.
Ouais.
Et là-bas, c'est plus compliqué.
Bon
c'est un truc un peu plus compliqué de faire comprendre aux gens. En fait, on va réfléchir à l'espace et ça aura un vrai impact sur ta vie, quoi. Donc ça, c'est un risque. Mais en même temps, je suis en mode bah. vais apprendre, quoi. C'est ouais. l'aventure. Et pour ça, je pense que j'avais aussi vraiment besoin En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une expérience avant. En fait, ça fait un moment que j'y pense, donc ça fait un an. J'ai tenté une fois de trouver un collectif avec qui travailler. Ça m'a pas plu. Parce qu'en okay. fait, c'était que des mecs, je pense.
Ah. On revient toujours à ce problème avec les gars.
C'était que des mecs. Parfois, t'avais des présentations et les mecs, ils disaient, ouais, bah là, le bureau, c'est pour monsieur, la cuisine, c'est pour madame, des trucs comme ça, un peu chiant. Oui. Et là, en fait, j'ai vraiment très envie de rentrer parce que j'ai trouvé mon associé, qui est une okay. femme avec qui on peut vraiment... Je sens qu'il y a une complémentarité. Et moi, j'ai toujours été plus... Enfin, bon, tu sais, maintenant, j'ai...
Tout le monde le sait. Hein.
Ouais, c'est bon.
La planète entière, c'est que t'as l'air d'être plus à l'aise avec les...
Beaucoup, beaucoup plus à l'aise, quoi.
Avec les femmes qu'avec les mecs. Qu'est-ce qui... On a... Parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé de masculinité, mais j'adore vraiment parler tu vois, de tes prises de tête où j'ai l'impression que t'as le cul entre deux chaises à plein de niveaux. C'est trop cool. Enfin, c'est trop cool. Non, c'est pas trop cool.
C'est pas cool, okay.
mais merci c'est beaucoup bon. De partager ça. Vraiment, c'est chouette de venir raconter ce qui se passe profondément en toi. Qu'est-ce qui fait que t'as toujours eu du mal avec les mecs?
Je pense que moi, je fais partie des gens qui ont été un peu, je sais pas comment on dit en français, mais bullied.
Harcelé?
Harcelé. Ouais. Mais de manière très insidieuse, pas au niveau qu'on peut voir dans les séries américaines où le mec il se fait tabasser et tout, mais plus en mode, tu vois, moi j'étais au primaire, j'étais vraiment petit, très maigre, très très timide. En fait, il y a eu un gros changement à la maternelle, j'étais un peu surexcité.
Ouais.
Je suis arrivé au primaire et je suis devenu très calme et très rangé. Et en fait, je voulais toujours traîner avec les mecs à ce moment-là. Enfin, même si, en fait, je m'entendais déjà beaucoup plus avec les meufs. Mais je pense que socialement, j'avais l'impression que il fallait que je sois.
Oui, c'est ça. T'as envie d'aller avec le groupe pour lequel tu t'identifies, quoi.
Exactement. Et ça marchait pas. Je me faisais un peu têche. Et du coup, je pense que ça m'a fait vraiment une espèce de haine des mecs. En mode genre, bah en fait, ouais. Je vais pas dire, mais en fait, ça sert à rien, quoi. C'est mieux de parler avec des meufs qui étaient beaucoup plus ouvertes et qui avec qui j'avais plus de facilité pour échanger. Et ma tante, ma fameuse tante là,
qui t'appelait mademoiselle.
C'est beaucoup plus tard que j'ai compris, quoi. Parce que du coup, j'ai sur le coup je comprenais pas pourquoi elle m'appelait mademoiselle, mais maintenant je comprends, quoi. C'est vraiment un truc de j'avais vraiment ce truc, même dans ma famille, mes cousins, je les ghostais de ouf, quoi. Je passais mon temps avec mes cousines, donc ouais, c'est vraiment je pense que ça vient du fait que je m'étais fait rejeter par les mecs, un peu harcelé, en mode genre t'as pas forcément le droit de faire exactement comme nous, d'une certaine manière. Tu vois, au niveau des bêtises, par exemple, quand tu te sens en équipe, quand tu fais des bêtises ensemble, ouais. et tout, bah moi je me sentais pas le droit d'aller faire des conneries avec eux, tu vois. Et donc ça me mettait un peu de côté. Ou, par exemple, un autre truc, je déteste le foot. Bah, du coup, ça fait déjà une grosse barrière. Les gens, ils jouent au foot tout le temps. Ouais. Je pouvais pas jouer au foot.
Ah, ça, le foot, c'est une purge. Hein. Laisse-moi te le dire. Le foot dans les cours. Et tu disais que tu avais un frère avec qui tu parlais beaucoup, c'est ça? Qui a donc un grand frère, j'imagine.
C'est
ton frère qui a donc 10 ans de plus que toi, c'est ça?
C'est ça, okay. Entre les deux. Ouais. Et oui, en fait, je pense que c'est la seule personne de la famille avec qui, tu vois, on peut se dire je t'aime, quoi.
Okay.
Donc on peut vraiment... Lui, il a vraiment ce truc où il a un peu avancé sur ce genre de choses. Il est moins pudique, on va dire ça. Et donc on peut vraiment discuter, on prend des nouvelles souvent. Je pense que c'est tu vois, ça se, enfin, ma famille est très patriarcale.
Ouais.
Et en fait, c'est bizarre pour les gens de demander comment ça va, mais comment ça va profondément. Tu vois, c'est en général quand on te demande comment ça va, c'est oui. Est-ce que le travail se passe bien. Ouais. Et lui, c'est le seul qui me demandait vraiment comment ça va profondément, quoi. Bon, j'avais un peu du mal à répondre parfois, mais c'était trop cool déjà d'avoir oui, ça.
C'est une ouverture, quoi.
C'est mmh. Et je pense que lui, il se rend pas compte que c'est très bizarre parce que quand on était petits, on s'engueulait tout le temps. C'était mon frère que je détestais le plus parce que on s'engueulait tout le temps. Et quand je suis parti,
vous aviez 10 ans d'écart, c'est beaucoup, non?
Ouais, c'est vrai que ça. Non, ça, mais joue. Ça joue.
Imagine, t'avais 6 ans, t'étais un gamin, quoi. Tu vois, lui, il avait 16, il était en pleine adolescence.
Enfin, je crois que j'aimais pas qu'il soit grand frère, quoi.
Quoi?
J'aimais pas qu'il soit grand frère.
C'est-à-dire?
En fait, tu sais, quand t'es grand frère, tu protèges ton petit frère. T'es ouais. En mode genre, fais pas ça, fais pas ci. Et mmh. Moi, j'ai détesté ça. Du coup, je faisais un peu le rebelle avec lui. Okay. Et du coup, on s'engueulait beaucoup. Et quand je suis parti, ça a changé complètement de rapport. Et ouais, je pense que ça vient surtout de ça, du fait qu'il se posait vraiment la question de comment ça va, quoi.
Et donc, t'es en train de me dire que, si j'ai bien compris, la société béninoise, enfin, t'as un peu peur de comment la société, le patriarcat made in Bénin, alors qu'en France, bah, on l'est
aussi,
ouais. Complètement patriarcal aussi, mais je sais pas, d'ailleurs, peut-être tu pourrais en parler. Mais ça veut dire qu'il y a moyen, ton frère vit au Bénin, ça veut dire qu'il y a moyen d'évoluer, tu vois, en étant capable de dire je t'aime à un autre mec.
Mmh.
C'est
ouais.
Dur, c'est pas évident.
Enfin, oui. Enfin, lui, oui, mais en même temps, je pense qu'il y a des sujets qui vont être impossibles à aborder, quoi.
Ok. Comme quoi?
Bah, je sais pas. Par exemple, c'était très marrant, mais. Moi, j'avais fait mon à l'école d'archi. Quand tu finis, tu fais un diplôme, un projet de fin d'études. Et moi, j'avais embarqué mon meilleur pote pour faire un projet au Bénin. Du coup, on était partis au Bénin. Mon meilleur pote est homosexuel. Et en fait, le problème, c'est que quand on est arrivé là-bas, je me sentais super mal parce qu'il pouvait pas assumer son homosexualité. Et du coup, je pouvais pas. Je me sentais comme si je l'embarquais dans un truc
ouais.
Compliqué. Et du coup, on habitait chez mes parents pendant 10 jours. Et c'était impossible d'en parler avec qui que ce soit. Tu vois, même mon frère.
Même ton frère woke.
Oui, impossible de. Oui, impossible de d'en parler, quoi. De dire parce que tout le monde lui disait ah et ta copine et tout machin. Et lui, il était mal un peu. Et tu vois, c'est des choses comme ce genre de choses.
Alors, question con, mais pourquoi il pouvait pas l'assumer?
Parce qu'en fait, déjà c'est illégal.
Ouais. Pas. Non, mais c'est important de le. J'étais pas sûr, hein, mais je pose la question parce que
c'est illégal. Ouais. Donc premier gros bug. Ouais,
tu risques quoi alors, la prison?
Alors j'ai pas regardé, mais je crois que ça doit être la prison.
Ok.
Et le deuxième truc, c'est que, enfin, tu pourrais te dire c'est illégal, mais bon, les gens ils peuvent quand même l'assumer dans la société. Mais si tu l'assumes, en fait, c'est paria direct, quoi. Et
même au sein de ta famille, tu crois? Si
ah
toi
oui.
T'avais amené, tu
ah
vois?
Oui. Ah, ouais, oui, ouais, c'est ah sûr. Oui, c'est chaud. Ouais. Je pense que premièrement, si ici ils étaient au courant que mon pote était homosexuel, déjà ils auraient tout de suite dit que moi j'étais homosexuel aussi, donc m'auraient catégorisé. D'une certaine manière. Et deuxième chose, ils auraient jamais, ils auraient pas pris notre démarche de la même manière, tu vois. Ouais. Nous, on était là, on était en mode, ok, moi, j'ai grandi là-bas, mais je connais pas du tout, en fait. Et du coup, moi, pendant ces 10 jours-là, on était en vadrouille, ouais. On a découvert le pays. Ils auraient pas du tout pris les choses de la même manière, quoi. Ça aurait été très compliqué, je pense. Donc, sur ce genre d'avancée, on va dire, sociétale, ça, c'est des choses qui m'inquiètent énormément. Ouais. De, en fait, si j'ai un pote gay, je vais pouvoir dire, enfin, je m'en fous qu'il soit gay, quoi.
Ouais.
Et du coup, là, tu vois, là-bas, si ça arrive, ça veut dire que je devrais toujours calculer. C'est une pression en plus. Bon, lui aussi, hein, faut penser aussi que lui, ça doit être plus la merde dans sa tête que dans la mienne à ce moment-là. Mais
Oui, ce qui n'empêche pas que la merde dans ta tête est légitime, tu vois, t'as le droit. Toujours pareil.
rappel à l'ordre de légitimité.
Pardon, j'ai juste envie de te dire, effectivement, ça doit pas être simple pour lui, mais ça doit pas être simple pour toi non plus, quoi. Ok. Oui, j'imagine à quel point ça doit te poser des questions.
Ouais. Et tu vois aussi. Tu vois, par exemple, mon rapport aux femmes. Moi, ou alors à la paternité. Alors, par contre, ça. Moi, je suis en mode, je veux pas d'enfant.
Ok.
Je veux pas être père.
Ah ouais, donc.
Et ça, je le dis depuis que j'ai 10 ans. Oh, ça n'a pas changé. Okay. Peut-être que ça peut changer, mais. Je suis en mode non, tu vois.
Moi, je veux pas te dire, tu verras quand tu seras grand. T'in compte pas sur moi pour te le dire.
Mais
je trouve que c'est une très bonne chose de savoir à peu près où tu veux mettre les pieds sur ce
sujet. Et ça, je sens que ça va être un vrai sujet parce que moi, quand j'étais en France déjà, j'étais en troisième année de licence, donc je devais avoir, 22 ans. Ma belle-sœur me disait déjà, tous mes frères ont des enfants. Elle était déjà, c'est le prochain.
Tic-tac.
Tic-tac. Et moi, j'étais en mode, non, en fait, je vais pas avoir de gosse. Et tout le monde te dit, ouais, t'es petit, tu vas grandir.
Oui.
T'inquiète.
10 ans plus tard, eh bien non. non, même pas 10 ans.
Tu sais, peut-être que oui, je vais grandir. Mais en fait,
ça là. Ça va pas grandir. C'est juste, peut-être, tu vas changer d'avis.
Voilà.
Ça n'a rien à voir avec grandir.
C'est ça. Ok. Changer d'avis.
Non, mais je pense à tous les gens de Child Free qui nous écoutent et qui ont décidé, eux, tu vois, en conscience de pas faire d'enfant, quoi.
Non, mais c'est clair. Et du coup, là, t'es en mode, là, je sais que ça va être en vrai, ça va être compliqué dans la famille de faire comprendre aux gens que, non, j'ai 8 neveux, je les adore. C'est déjà, ça va quoi. C'est bon. Pas besoin d'en rajouter.
Pas besoin d'en rajouter là, c'est bon pour la planète et tout.
Ouais. Et de la même manière, ça amène du coup rapport aux femmes, à la relation.
Oui, ça veut dire qu'il faut que si tu veux trouver une chérie, il faut que tu trouves une chérie qui veut pas d'enfant.
Je vais te dire une phrase un peu choc de mon père. Mais je sais pas, enfin, je sais qu'il le dit gentiment. Mon père, c'est quelqu'un qui il est en mode. En fait, être marié, c'est avoir un équilibre pour lui. Donc il va dire, si quelqu'un est pas marié, il va dire oui, il est déséquilibré, tu vois. Il dit ça souvent. Et donc lui, quand la dernière fois qu'il est venu me voir, lui, c'est, je crois que il sait très bien. On en a déjà parlé. Il sait que c'est mort, quoi. Et il m'a dit, en fait,
que c'est mort pour avoir des enfants, c'est ça.
Pour avoir des enfants et même pour être dans une relation, je suis pas sûr, quoi. Et lui, il me disait, en fait, attention, parce que moi, je t'accepte comme ça, mais en fait, là-bas, c'est un peu bizarre. T'as un peu ne pas être marié, par exemple. C'est comme si t'es pas complet, quoi. Est-ce qu'on peut te faire confiance, tu vois? Et ça, c'est des trucs qui me... J'ai envie de dire, moi, si j'y arrive, je vais pas me marier, du coup. Est-ce que les gens vont pas se dire, c'est un mauvais archi parce qu'il est pas marié?
Ah oui.
Peut-être, hein. Et là, les gens, ils ont tendance à penser que, du coup, avec mon associé, on est en couple. Pas du tout, ça n'arrivera pas. Mais
après, vous pouvez faire croire ça.
Non, c'est... c'est pas le cas.
Alors, si ça permet d'avoir des clients, franchement, c'est une vraie question à se poser. Hein. Parce qu'on s'en fout, les gens, ils vont pas aller avec vous dans votre lit, quoi, tu vois, à la fin. Moi, je dis ça.
Non, mais je pense que...
je me poserai la question.
Je pense peut-être que je suis un peu radical, mais je suis en mode... je veux juste m'assumer comme je suis, quoi. Je trouve ça un peu...
Tu veux pas avoir de clients qui comprennent pas...
Oui, c'est ça qui... Enfin, après... si c'est la Hesse. Mais tu vois, non, mais c'est un vrai... je sais pas si c'est dans l'esprit de mon père que c'est comme ça, hein, okay. Parce que c'est lui qui m'a dit ça. Mais il doit avoir un peu de vrai là-dedans. Il doit avoir un peu de trucs comme ça, le mec est pas marié, il a pas de gosse, il sait pas gérer une famille, il peut pas gérer une boîte, quoi. Alors que... Je pense pas. Je pense que c'est deux choses bien séparées. On est des gens, on est des personnes. Enfin, on est fait de plusieurs choses, quoi.
On sent vraiment hein, dans ton, tu vois, là, ça va faire une heure que tu parles. À quel point
comme tu disais, bah, je vais être un peu un étranger au Bénin et je sens aussi que je suis un étranger ici et qu'à un moment donné, il va falloir
trouver
un endroit, quoi, tu vois, où t'es bien et tout. Et je le sens d'autant plus quand tu me racontes que j'imagine que tu vas pas rentrer dans les cases au Bénin, quoi.
Ça, je le sens. Ça va être chaud. Mais j'ai un peu, je me dis quand même, bon, peut-être que c'est un peu triste, mais peut-être que je vais trouver des potes qui seront pas forcément peut-être que je vais me retrouver dans une communauté d'expats, quoi.
Ouais.
Et ça, je sens que ça va vers ça. Et je trouve que c'est un peu triste, mais en même temps, pour me sentir à l'aise,
ça peut être une
solution.
Oui, puis j'allais dire en plus une solution de transition, tu vois. Tranquille.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
C'était trop intéressant. Hein.
Merci, bah c'était très cool.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, trop bien. Et tu sais quoi, j'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous dans un an et demi, tu vois.
Ok.
Je sais pas trop si on pourra, enfin, tu vois, si tu reviendras de temps en temps à Paris.
C'est l'idée, hein. Je viens juste pour la fête.
Mais franchement, si tu repasses dans un an et demi, j'aimerais bien avoir la suite de l'histoire, quoi, ça serait cool. Merci beaucoup Osvaldo, c'était vraiment canon.
Merci Fab.
Je sais pas, merci à toi, c'était vraiment chouette d'avoir ton témoignage.
Cool. Salut tout le monde.
Je te souhaite tout le meilleur.
Merci.
Franchement. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.